Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Le premier podcast intime sur l'argent.
Au moment où je l'émets, je sais que je peux entièrement les perdre, mais mon tempérament et mon éducation me font penser que c'est pas parce que je vais perdre 30 000 euros que ma vie est foutue. Et l'échec est tout à fait envisagé, et je me dis, qu'est-ce que je risque au pire ? Allez, pendant un an ou deux, on fait ça, la boîte s'écroule, ce qui est un scénario qui est tout à fait probable.
Salut à toi, jeune entrepreneur. Tu cherches un podcast inspirant pour apprendre à créer ta boîte et devenir très riche? Eh bien, cet épisode n'est pas pour toi. Non, rassurez-vous, Thune Podcast n'a pas pété les plombs. Encore que, en parlant d'argent avec Michel Athénour, serial entrepreneur devenu millionnaire très jeune grâce à sa première start-up dans le digital, on va effectivement évoquer des trucs comme des levées de fonds à 6 chiffres, des rachats, des plans sociaux aussi, le coût des embauches. Mais comme d'habitude, on va aller bien au-delà des apparences numéraires. Aujourd'hui, on se glisse dans les chaussons et les millions d'un patron. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Michel, Michel Athénour. Michel, tu as 52 ans aujourd'hui. Bon anniversaire.
Merci.
Et tu es entrepreneur. D'abord, on va parler un peu de toi, comme d'habitude, comme on le fait dans Thune Podcast. T'as grandi où, Michel ? Ils faisaient quoi, tes parents ?
Alors moi, j'ai grandi à Nice, de parents qui étaient enseignants, en collège pour ma mère, en faculté pour mon père. Absolument aucun entrepreneur dans la famille, pas du tout de culture de la création d'entreprise.
Est-ce que vous parlez d'argent à la maison ?
Très, très peu. C'était pas réellement tabou, mais c'était pas un sujet... L'argent, c'était quelque chose d'un peu précieux, il fallait pas faire d'excès. J'avais un peu d'argent de poche, mais on nous a très très vite appris la valeur de l'argent. C'est-à-dire qu'un sou est un sou, et par exemple, si je veux des sous un peu plus que mon argent de poche, j'ai qu'à bosser l'été. Donc effectivement, à 16 ans, j'ai commencé à travailler.
Tu faisais quoi ?
Oula, j'ai fait beaucoup de choses. Premier job, c'était McDo. À 16 ans pile, j'ai fait chasseur-bagagiste. J'ai travaillé dans une blanchisserie industrielle à plier des serviettes et des draps toute la journée. J'ai fait du débroussaillage. J'ai fait beaucoup de choses. Et personne dans ma famille ne claquait n'importe comment. Quand on partait en vacances, on ne s'arrêtait pas dans un resto ou un café pour boire quelque chose. Parce qu'on se disait, mais pourquoi boire un café à X francs alors qu'on a la même chose à la maison ?
Si on attend, on l'aura quand on sera arrivé. Quoi.
Voilà quoi. Donc c'est ce rapport à l'argent assez économe.
Ouais, t'es plutôt du genre à compter.
Maintenant, non, parce que justement, par ma vie professionnelle, j'ai accédé à des moyens qui me permettent de plus compter. Par exemple, quand je vais au supermarché, je ne regarde plus les prix des produits. Je trouve que c'est un luxe inouï de pouvoir choisir sans regarder les prix. Par contre, à l'époque, quand je n'avais pas encore tous ces moyens, oui, compter, c'était hyper naturel. Donc, c'est plus une éducation qui t'apprend, mais même inconsciemment, que tu ne vas pas te réaliser juste en claquant de l'argent, en s'achetant des belles voitures, des belles fringues. Pour nous, ce n'était pas ça.
Il n'y a pas une culture du bling.
Pas du tout.
Tu voulais faire quoi dans la vie ?
Pas du tout entrepreneur. Enfin, je ne savais même pas ce que c'était, en fait.
Tu as quand même choisi de faire une école de commerce.
Ouais. Alors, pas nécessairement pour les bonnes raisons. Alors, les bonnes raisons seraient, je ne sais pas... L'ado qui se dit à 16 ans, je veux faire du marketing ou de la finance, il a une illumination. Bon, moi, ce n'était pas du tout ça.
Et quelque part, je veux faire du fric, parce que l'école de commerce, c'est quand même éventuellement...
Oui, oui, enfin, ça coûte des sous déjà comme étude, contrairement à d'autres. Et il y a effectivement le fait que tu es rassuré, d'ailleurs les parents aussi le sont, que tu vas avoir un bon salaire. Quand j'ai fait cette école, il y avait une majeure, ce qu'on appelle une majeure, donc c'est un cours en troisième année qui s'appelait création d'entreprise. On est en 1993 et la création d'entreprise n'est absolument pas à la mode. Dans les écoles de commerce, il y a des modes. À un moment donné, ça a été la finance, ça a été le marketing ou la publicité. Maintenant, enfin, ça fait déjà un moment, maintenant ça doit faire 10 ans, la création de start-up, c'est le Graal. Voilà. À l'époque, en 93, c'était un peu les losers ou les gens qui ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire ou qui s'en cachaient, qui disaient « Ouais, moi je fais création d'entreprise. » Ah bon, mais pourquoi ? Enfin, quel intérêt, quoi. Parce que tu as une voie toute tracée, en fait. L'école de commerce t'apprend à être très performant comme cadre dans un grand groupe. Et être cadre dans un grand groupe, c'est la certitude d'avoir une carrière qui augmente, une position sociale. Donc, quitter ce confort et ce pourquoi tu as bossé quand même pas mal, faut prendre des risques, c'est pas quelque chose qu'on t'enseigne et c'est pas quelque chose de naturel. Et j'ai croisé beaucoup de personnes qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat dans ma vie professionnelle, notamment grâce à ma première boîte qui m'avait donné une certaine visibilité quand on l'a vendue. Et je voyais très vite ceux qui n'avaient pas cette fibre, qui voulaient créer leur boîte, par exemple, mais gagner le même salaire que quand ils étaient dans une grosse boîte. Pour moi, ça n'a pas de sens.
Ça veut dire que quand tu crées ta boîte, au début, tu vas éventuellement pas te payer, vas éventuellement faire des sacrifices, mais ce qui suppose aussi éventuellement que tu aies une trésor par ailleurs.
En fait, c'est pas seulement que tu te payes pas, parce que moi, si je prends les différentes boîtes que j'ai créées, la première que j'ai créée est celle qui m'a permis d'avoir une certaine assise financière, elle a eu des hauts et des bas, et à un moment donné, on a levé de l'argent, donc on a eu beaucoup de sous sur le compte en banque, on a pu se verser un salaire décent. C'était pas un salaire de grand groupe, mais c'était un salaire très décent. Et à un moment donné, il y a eu des difficultés, le marché s'est retourné, il y a eu un krach boursier, etc. Il a fallu passer en mode économie. Et je me souviens très bien, on était quatre créateurs, on a fait une réunion et on a décidé de diviser notre salaire par deux ou par trois, je ne sais plus. Ça a pris 5 minutes de prendre cette décision. Donc oui, il faut pouvoir assumer ça financièrement, il faut pouvoir continuer à payer son loyer, ça oui. Et c'est surtout cette capacité à pas mettre toute son ambition dans « j'ai combien à la fin du mois qui tombe de façon régulière et certaine ».
Alors, tu fais cette école de commerce, c'est dans le Sud ?
Non, c'est à Paris, Subdeco Paris.
T'es bien à Subdeco Paris ?
Oui, c'était, je crois que c'est toujours la troisième école de commerce française dans les classements.
Tu découvres un univers, un petit biotope de gens qui ont une façon de voir la vie peut-être différemment du milieu familial où tu étais.
Très très différent de mon milieu familial, notamment parce que comme c'est l'une des trois parisiennes, elle est trustée à 80% par des étudiants qui ont fait leurs études à Paris. Donc à l'époque, je suis le niçois, je crois que même si je suis le kéké niçois, parce que j'ai une coupe de cheveux assez improbable, un peu long. Mais ce n'est pas très grave, parce que c'est aussi une machine à assimilation, parce qu'au bout de 2 mois, on est de toute façon tous en permanence à aller dans des soirées, avoir des t-shirts de campagne BDE, donc on se ressemble à peu près tous. Et on vit les mêmes excès, les mêmes joies, donc c'est assez vite oublié, ça.
Tu fais des stages ?
Ça joue presque en mode repoussoir. Le premier, c'est Procter & Gamble, donc la grande boîte américaine qui vend de la lessive, des savons, etc. Là, je vois une organisation extraordinairement efficace. Je suis censé aller dans tous les supermarchés de la région sud-est pour vérifier les têtes de gondole, vendre de la lessive, ce genre de choses. Je suis impressionné par les méthodes, mais ça ne me donne pas envie d'y aller. Deuxième stage, c'est Air France au Kenya, où là, je suis à la direction financière. Là, c'est génial parce que c'est le décalage. Je suis un mini-expat. Et c'est super intéressant parce que c'est une autre culture, une autre façon de travailler. J'ai adoré. Et le troisième, alors pour le coup, c'est vraiment l'effet repoussoir. C'était mon troisième stage. J'ai fait un stage dans une grosse boîte de conseil qui s'appelle Andersen Consulting, qui a été dissoute après pour des scandales financiers. Où là, je suis un tout petit rouage, un tout petit pion dans un projet immense qui dure plusieurs années, qui consiste à réformer toute la gestion des ressources humaines de l'armée de terre. Et donc, je vois une toute petite fenêtre d'un immense immeuble. Et je fais ce qu'on me demande de faire, j'exécute, mais je ne comprends pas le contexte, ça n'a aucun intérêt, quoi. Et donc, je développe à partir de ce moment-là l'envie de ne pas être dans des grosses structures. Voilà. Je me suis toujours dit que je préférais être au volant d'une petite voiture pas très puissante plutôt que passager d'un gros machin, où je ne maîtrise pas, en fait. J'ai fait quand même 50 conseils avant de lancer ma première boîte.
Ah, donc tu t'es quand même fait embaucher dans une boîte
Dans une boîte de conseils qui avait 13 consultants au début, donc j'étais vraiment dans le format que je cherchais, une petite boîte.
Tu avais un bon salaire de mec en consulting.
Très bon, j'avais un très bon salaire. Pour la petite histoire, je m'étais dit en sortant de mon école de commerce, je m'étais fixé, c'est un peu débile comme objectif, mais bon, voilà, on est jeune, on a 23 ans. il faut que je gagne 500 000 francs par an, brut, avant 30 ans. Je ne sais pas pourquoi je me suis fixé cet objectif.
Qu'est-ce que tu voulais faire avec tout cet argent ?
Je ne sais même pas.
Tu avais envie d'être riche ? Tu avais envie d'être très à l'aise ?
Même pas, parce que mon style de vie ne m'obligeait pas à l'être. Enfin, jamais été très dépensier. Et j'ai atteint ce chiffre à 28 ans.
Est-ce qu'il n'y avait pas l'idée que pouvait refléter en quelque sorte ta valeur ?
Je ne sais pas. Je ne saurais pas dater à partir de quel moment j'ai déconnecté la valeur d'une personne de son salaire, mais ça a été assez rapide quand même. À l'époque, je pense que j'étais aussi dans un environnement où la réussite, le salaire, la carrière, tout ça était...
Subdeco, quoi.
Voilà, il y avait quand même, je pense que
école de commerce,
j'étais un peu picousé à tout ça. Et donc, j'atteins ce chiffre. Ça ne change strictement rien à ma vie. Ça ne me rend pas plus heureux. Et en plus, je bosse comme une brute. Je suis en permanence stressé, j'ai un très mauvais sommeil, j'ai des semaines de 60 à 80 heures. Et je me dis, à un moment donné, c'est pas une vie tenable. Je ne veux pas ça. J'étais à Paris, j'avais un mignon petit appart dans le Marais. Mais tous les week-ends, j'étais crevé, j'avais à peine le temps de voir mes copains. Donc ça veut dire que je ne pouvais même pas rencontrer des nouvelles personnes. Je me suis dit, il faut que je sorte de ce cyclone-là, qui est très puissant, parce que chaque année, tu vas gagner 10 ou 15% d'argent en plus. Tu vas avoir des gens autour de toi qui ont les mêmes moyens et qui vont voir leurs moyens grossir. Donc, ils vont vouloir un appartement plus grand, ils vont vouloir, je ne sais pas, une résidence secondaire, une belle voiture, j'en sais rien. Et si tu ne fais pas gaffe, tu peux être vite emporté par ces envies qui ne sont pas nécessairement les tiennes, mais qui sont celles de tes proches. Donc, j'ai assez vite déconnecté le montant qu'il y avait sur mon bulletin de salaire de mon bonheur personnel. Et j'ai aussi assez vite déconnecté du lien qu'il pouvait y avoir entre le salaire et la valeur d'une personne.
Est-ce que tes parents sont quand même fiers de toi du fait de cette réussite sociale et financière ?
Ils ont été fiers, mais en même temps, mon premier salaire était supérieur à celui de ma mère. Et ça, quand on a 23 ans, on se dit, il y a un truc qui cloche. Enfin, j'étais content de toucher cet argent, c'est pas le sujet, mais ma mère était enseignante, elle était une élève brillante, elle a fait l'école normale à Aix-en-Provence. Comment ça se fait qu'à quasiment 50 ans, elle ait un salaire qui soit inférieur à celui que j'ai en commençant ? Et au bout de 3 ans, j'avais un salaire supérieur à celui de mon père, qui était professeur de faculté, qui représentait dans la hiérarchie de l'éducation nationale quelque chose d'une forme de réussite quand même. Donc je voyais bien que la capacité des gens, leur talent, se concrétisait pas nécessairement en un salaire élevé.
C'est un drôle de coup de canif à la méritocratie, non ?
Ah oui, ben d'ailleurs, je pense que... Enfin, moi, j'étais très sensibilisé à ça, mais le métier d'enseignant a connu une paupérisation en 2 générations, mais c'est un scandale immense. Je pense que d'ailleurs, mes parents auraient été très heureux que je fasse maths sup, maths spé.
Est-ce que t'es plus sérieux ?
Plus sérieux, même par rapport à leur éducation, c'était plus valorisé d'être ingénieur que d'être commercial. Même encore aujourd'hui, faire une prépa HEC, c'est épice, on appelait ça épice, je sais pas si ça...
Je sais pas ce que
c'est
ça veut
dire. C'est les épiciers, en fait. Épices, vendeurs d'épices, en fait.
Ah ouais, épicier.
Tu faisais épice, c'est-à-dire que tu étais là pour acheter et vendre des produits, faire de la marge, quoi. Il y a un côté pas du tout glorieux, quoi.
Revenons sur cette création de la première boîte.
Oui.
Donc, t'es très bien payé, t'es cadre dans une jolie boîte de consulting avec une dimension... chez l'humaine qui te convient.
Oui.
Tu as ton appartement à Paris, tu es propriétaire, tes revenus vont croissant d'année en année, tu as atteint cet objectif de 500 000 francs par an.
Ouais.
Et tu commences à avoir l'impression que ça te bouffe.
Je dors pas bien, je bosse vraiment beaucoup trop. Et je suis... En fait, à un moment, je veux quitter tout ça, et je veux pas seulement quitter le job, je veux quitter la ville aussi. C'est-à-dire que Paris, c'est extraordinaire quand tu es étudiant ou jeune adulte. Y a un moment où c'est vraiment une machine à laver. C'est-à-dire que moi, j'avais une vie très cadrée, mais à la fin, j'avais des week-ends qui se ressemblaient. J'avais un dîner chez des amis le samedi soir. Le dimanche, je me levais à midi parce que j'étais exténué. Le dimanche après-midi, je faisais un peu d'administratif ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas très passionnant, mais... Et puis, j'ai recommencé, quoi. Vraiment le petit rongeur sur la roue, quoi.
Mais en fait, tu profitais pas du tout du luxe que te permettaient tes revenus. T'avais pas une vie luxueuse ?
Pas du tout. Pas du tout.
Alors, comment tu as fait pour sortir de ce cadre-là ?
Donc, j'ai cet ami Bertrand qui a fait la même école que moi, qui me dit, voilà, je suis avec 2 copains, on veut créer une boîte, mais on ne sait pas faire le business plan. Le business plan, à l'époque, enfin, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'est un outil important pour pouvoir lever des fonds. Donc, j'ai rencontré les 2 autres personnes. On s'est bien entendu. Et ils m'ont très rapidement emporté dans leur projet. Et à 4, le projet est devenu donc ce qu'était CityVox.
Alors CityVox, c'est une sorte de guide en ligne. Oui. De sortie.
C'était un city guide, un réseau, en gros, il y avait une cinquantaine de villes en France où on donnait de l'information aux internautes pour trouver les horaires de ciné, identifier les meilleurs restos, les spectacles, etc. On avait croisé la ligne éditoriale d'un Pariscope à Paris avec un phénomène qui était déjà très présent sur le web en 99-2000, qui était la possibilité de donner son avis.
Tu mets de l'argent de tes sous dans la création?
Je mets de l'argent de mes sous, pas énormément. De mémoire, c'était quelque chose comme 30 000 euros.
C'est quand même une...
Ah, c'est déjà une somme. Mais c'était aussi permis par les sous que j'avais gagnés en étant consultant.
Vous êtes quatre, tout le monde met la même somme?
L'un des quatre qui était un peu plus leader sur le projet, Bertrand, lui met un peu plus. Et en fait, au début, on avait ce... On était jeunes, on avait 28 ans, on avait ce... Ce rêve, cette utopie qu'on est quatre, on est tous à égalité. Il y a même le quatrième, Philippe, qui souhaitait qu'on fasse une présidence tournante. Enfin bon. En fait, dans une organisation, ça ne marche pas. Ça. C'est bien qu'il y ait un chef. À un moment donné, quand les quatre ne sont pas d'accord sur un sujet, il faut trancher. Et là, à un moment donné, c'est bien qu'il y ait une personne qui tranche. En l'occurrence, c'était Bertrand.
C'était celui qui avait mis le plus de sous ?
C'était lui qui avait mis le plus de sous et qui avait apporté le réseau qui a permis de lever des fonds assez vite.
Alors, on va revenir sur ce moment de la levée de fonds. Déjà, est-ce que tu flippes au moment où tu mets les 30 000 balles? Est-ce que ça te fait quelque chose?
Ça me fait quelque chose, mais je flippe pas. Au moment où je les mets, je sais que je peux entièrement les perdre, mais mon tempérament et mon éducation me font penser que c'est pas parce que je vais perdre 30 000 euros que ma vie est foutue. Et l'échec est tout à fait envisagé, et je me dis, qu'est-ce que je risque au pire? Allez, pendant un an ou deux, on fait ça, la boîte s'écroule, ce qui est un scénario qui est tout à fait probable.
Oui, il y a un pourcentage de boîtes qui se créent et qui meurent au bout de 2 ans.
Qui est assez élevé.
Qui est très élevé,
tout ouais. À fait. Et je me dis, ben, je vais retravailler dans une entreprise classique. En fait, je ne l'ai pas dit, mais j'avais chevillé au corps que Internet était une vague et une révolution hallucinante. C'était pour moi la première fois que j'ai vu une page web. Moi, j'ai eu une illumination. Quoi. C'est de l'ordre du mystique. C'est-à-dire, je me suis dit, ça, c'est un truc de malade, ça va changer le monde.
Et de fait, c'était le début de la bulle Internet.
C'était le début de la bulle, et il y avait une effervescence. C'était vraiment la bulle Internet avec un excès d'argent sur toutes les boîtes qui se créaient. On a profité de ça au début. Et au cours d'un des apéros, parce que tous les soirs, tous les week-ends, il y avait des apéros pour mélanger des investisseurs, des journalistes, des start-upers, etc.
Des business angels, comme on appelle ça.
Business angels, etc. On rencontre un gars qui me dit « Ah, j'adore votre projet. Ouais, je représente un fonds américain qui a beaucoup de sous. C'est exactement le genre de projet qu'ils adorent. » Donc, on lui envoie le business plan. Ça, c'était le jeudi. Le vendredi, il reçoit le business plan. Le samedi, il nous appelle. Il nous dit « Est-ce qu'on peut se voir demain ?» On le reçoit dans nos locaux le dimanche.
Le dimanche, hein, on voit bien que ça ne s'arrête jamais au passage.
Oui, exactement. Il nous aurait dit à 2h du matin, on aurait dit oui. Quoi.
Vous êtes complètement en phase maniaque, hein, on peut le dire.
Un peu. Et il nous dit, je reviens vers vous. Et le lundi, il nous dit, voilà, semaine prochaine, j'ai la partenaire de Boston qui vient à Paris pour justement se prononcer sur un salon d'investissement. Est-ce que vous pouvez la rencontrer avec moi mardi matin à 8h30 à l'hôtel Georges V? OK. Donc j'y vais avec Bertrand, on est deux. Nous, on est en costard, on est tout jeune, on est très impressionnés. C'est la première fois de ma vie que je vais au Georges V. C'est la première fois de ma vie que je rencontre un fonds américain d'investissement. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Hein. Et la boîte, elle est créée. Il y a des présentations PowerPoint, mais il n'y a rien de fait. Il n'y a pas de site web, il n'y a rien à montrer. Il n'y a aucun produit. Et là, on arrive exactement comme dans un film. On s'assoit, un peu impressionné. Et le gars... Il a une feuille A4 qui est blanche d'un côté, qui est retournée, et de l'autre côté, il y a une lettre. Et donc, il nous pousse la lettre avec le côté où on ne peut pas voir ce qu'il y a écrit. Et il nous dit, voilà, j'ai là une offre que vous ne pourrez pas refuser. Donc, on se regarde avec Bertrand, on se force un peu pour ne pas rire, parce qu'on sait, nous, ce que vaut notre boîte, ça fait 2 mois qu'on bosse dessus, donc voilà, il y a pas, c'est pas un miracle non plus. On retourne la page, et là, la page, il a indiqué que ce fonds américain est prêt à racheter 51% de la société CityVox pour 10 millions de dollars. Là, on se regarde encore avec Bertrand. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'on n'a que des présentations PowerPoint. Donc, ça veut dire que la boîte, à ce moment-là, vaut 20 millions. On est d'accord, puisque c'est la 51%. Comment on peut arriver à ce chiffre en nous ayant vu 2 fois? Enfin, c'est un peu aberrant pour nous. Donc on dit, on va réfléchir, on est très impressionné. On va voir nos deux autres collègues, on réfléchit et on refuse la proposition. On refuse la proposition parce que, d'abord, on ne sent pas trop le gars qui s'est enflammé hyper vite et on ne comprend pas pourquoi ça vaut autant. Et surtout, on lâche les rênes de la boîte, puisque ça veut dire qu'on n'a plus que 49%, ça veut dire qu'on a peur que le projet nous échappe. Et on s'est dit, on n'a pas fait ça juste pour gagner des sous, on a fait ça aussi parce qu'on voulait quitter des boîtes, on voulait quitter des chefs et des managers qui nous disaient quoi faire, et on voulait avoir notre bébé, et on veut continuer cette aventure. Donc on refuse la proposition. Et 3 mois après, krach boursier, tout s'effondre. La banque qui devait faire la levée de fonds, qui devait investir 6 millions d'euros à l'époque dans la boîte, se dédie et n'investit plus. Donc nous, on avait embauché beaucoup de gens, on avait créé 3 filiales en Espagne, en Allemagne, en Angleterre. Et on passe, je me rappelle, on appelait ça le lundi noir dans l'entreprise, on passe de 80 personnes dans la boîte, salariés, CDD, stagiaires, à 13 en 3 mois, parce qu'on n'a plus de sous. Et tout l'argent qui devait arriver, parce que bien sûr, pendant la phase, je ne veux pas être trop technique, mais quand un fonds investit, une banque investit, elle signe une lettre d'intention, et il y a 2-3 mois de due diligence, donc de vérification, d'analyse, d'audit. Et pendant toute cette phase-là, la Banque nationale de Paris, pour ne pas la citer, nous dit il faut investir, il faut faire de la publicité, il faut embaucher, parce qu'on est dans cette folie Internet. Et à l'époque, c'est les plus gros, les plus rapides qui semblent emporter le morceau. Ce n'est pas les plus futés, les plus compétents. Donc nous, on est pris dans cette vague.
Mais avec quel argent vous arrivez à embaucher tous ces gens
En fait, on avait déjà levé un peu d'argent, une somme beaucoup moins importante. Je crois que c'était quelque chose comme 1 million d'euros à l'époque.
Lever de l'argent, ça marche comment?
Non, mais c'est une vraie bonne question. Lever de l'argent, c'est dire à des gens qui ont de l'argent et qui veulent investir, regardez, je vais vous promettre un scénario, je vais vous raconter une histoire où l'argent que vous allez mettre va vous rapporter plus d'ici 2, 3, 10 ans. Donc en fait, c'est l'art du storytelling. Lever de l'argent, ce n'est pas nécessairement avoir des compétences ou un réseau, c'est toujours mieux d'avoir des compétences et un réseau, mais c'est raconter une histoire. J'ai un autre copain de promo que je ne citerai pas, qui n'a pas été un entrepreneur très en réussite, mais alors pour lever de l'argent, il était hyper fort. Donc il a levé de l'argent sur 3, 4, 5 projets, à chaque fois des millions, aucun n'a réellement explosé, mais à chaque fois, il arrivait à convaincre des gens. Et donc à partir du moment où vous savez raconter une histoire, que vous savez vous insérer dans une mode, parce qu'il y a des modes aussi, hein, dans les levées de fonds, en ce moment c'est l'IA. Aujourd'hui, si tu es jeune, tu comprends un peu l'IA, tu sais faire une présentation PowerPoint, c'est pas si compliqué de lever de l'argent.
Toi, tu es bon pour lever de l'argent?
Pas tant que ça. C'est-à-dire que je suis bon pour faire des projections positives et favorables, par contre, je ne sais pas promettre quelque chose que moi-même, auquel je ne crois pas. Je n'y arrive pas. Donc mes business plans sont toujours un peu trop conservateurs. Dans les faits, mais ils étaient toujours très proches de la réalité, parce qu'en fait, quand tu fais une projection, tu dois imaginer des aléas positifs et des aléas négatifs. Je te le donne en mille, les aléas négatifs sont plus courants que les aléas positifs quand même. Donc tu dis, ok, je crois que ça va faire, je ne sais pas moi, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc dans ton business plan, tu mets 250 000. Tu dis, oui, on peut même faire 2 ou 3, mais ça va être dur quand même. Et passer de 0 à 1, c'est très difficile. Créer une entreprise à partir de rien, c'est très difficile. Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai aussi repris, racheté des entreprises. Je sais l'autre nature de difficulté que c'est. C'est plus facile de reprendre une entreprise et de la remonter que de passer de 0 à 1 et de créer une entreprise.
Ah ouais ?
Oui, parce que quand tu rachètes une entreprise, tu as des gens, tu as des compétences, tu as des clients.
Il y a une partie du boulot qui est déjà fait.
En tout cas, il y a déjà un édifice qui est peut-être branlant, qui est peut-être en difficulté, mais il y a déjà quelque chose. De 0 à 1, pardon pour l'expression, mais tu pars avec ta bite et ton couteau, tu dois recruter des gens, tu dois lever de l'argent, tu dois chercher des clients, tu dois changer le toner de la photocopieuse, tu dois trouver des locaux, tu fais tout.
Tu fais tout.
Tu fais tout et tu fais tout pas parfaitement. Si tu es bon pour lever de l'argent, tu n'es pas nécessairement bon pour recruter des gens. Si tu es bon pour recruter des gens, tu n'es pas nécessairement bon pour les manager. Donc oui, créer une boîte à partir de rien, c'est très difficile.
Tu te payes au début avec Cityvox?
Avec Cityvox, au bout de 2-3 mois, on se paye, je crois que ça devait être la moitié ou le tiers du salaire qu'on avait avant, mais ça permet de payer les mensualités. Voilà, à peu près.
Pour payer ton loyer.
Pour payer ton loyer et la bouffe tout le temps. Tu fais que ça, donc tu vas pas claquer.
Ouais.
Par ailleurs, parce que tu es absorbé par la création d'entreprise.
Et c'est complètement au juger. Est-ce que je me paye? Est-ce que j'augmente mon salaire? Est-ce que je réduis ce que je gagne? Ça peut varier d'un moment à l'autre.
C'est très, très au juger. Et c'est pas le résultat d'une analyse ou quelqu'un qui va réfléchir sur un fichier Excel, qu'est-ce qu'on peut se payer. On se dit, allez, on multiplie par deux, parce que là, on vient de lever des fonds, donc on a les moyens de se multiplier par deux le salaire, c'est tout.
Et le salaire des autres, des gens que tu embauches?
Alors, le salaire des autres, il est beaucoup plus lié au marché. Donc là, on peut pas, si tu veux recruter un développeur...
C'est cher.
Bah oui, c'est forcément cher. Donc.
Oui, mais après, tu as quand même une marge. On peut recruter quelqu'un dans la fourchette basse, être un patron généreux.
On recrute,
je sais pas moi comment...
plutôt dans la fourchette basse, quand tu es en mode start-up ou création d'entreprise, pour plusieurs raisons. La première, c'était pas beaucoup de sous. Donc, tu dois vraiment économiser. Puis les salaires, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher au début. La deuxième, c'est que tu as une histoire à raconter qui est enthousiasmante. Donc, le salarié que tu vois en entretien, bien sûr, le salaire est important, mais faire partie d'une aventure au début, avoir la possibilité d'orienter les choix de cette boîte, ça a du sens aussi pour les gens. Donc, ils ne cherchent pas que le salaire.
En revanche, le salarié, tout enthousiaste qu'il soit de participer au projet, lui, n'a pas de part dans l'affaire. Toi, au fond... À la fin du fin, tu sais que ton salaire, c'est pas le cœur de la turbine.
La start-up fait que tu peux, notamment pour les premiers salariés, accorder des actions gratuites ou du BSPCE.
Du BSPCE ?
Donc, oui.
C'est une forme de
souscription de part de créateur d'entreprise. En gros, tu vas accorder le droit d'acheter une action à un prix donné au moment où la personne rejoint l'entreprise. Donc tu dis par exemple, je te donne le droit d'acheter cette action 10 euros, parce qu'en ce moment, elle vaut 10 euros. Mais comme on est une super boîte qu'on va se développer, un jour, cette action vaudra 100 euros ou 1000 euros. Et le jour où la boîte est rachetée, où il y a un gros investisseur qui rentre, le même jour, tu vas utiliser ton droit à l'acheter 10 euros et tu vas la revendre 100 euros tout de suite. Donc, tu vas faire une plus-value. Et ça, c'est un mécanisme qui est très connu des start-upers et qui permet aussi de recruter des gens brillants pour qu'ils ne soient pas lésés financièrement, c'est-à-dire qu'ils vont accepter un salaire inférieur par rapport à une très grosse boîte. Mais ils savent que si ça marche, derrière, ils auront une plus-value de cette nature.
Donc, ils prennent part au pari que vous faites,
oui.
Même structurellement.
Ils prennent un risque, finalement.
Ils prennent un risque,
moins
finalement.
Élevé, mais ils prennent un risque.
Et puis, ça permet de ne pas éventuellement payer toutes les cotisations sociales ou les charges qui pourraient alourdir le fait de les payer en salaire.
Si tu payes quelqu'un moins cher, tu payes aussi moins de cotisations sociales, enfin, patronales, en l'occurrence.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. J'ai vu que Cityvox, ça s'était vendu à 30 millions. Donc, vous êtes 4 à différentes proportions.
Alors, on a levé des fonds, donc on n'est pas du tout majoritaire à ce moment-là.
Ah oui.
On a un pourcentage assez faible de l'entreprise, mais un pourcentage faible fois 30 millions, ça fait quand même une certaine somme.
Oui, donc tu te retrouves avec des millions.
En l'occurrence, avant impôt, je me retrouve avec 2 millions.
2 millions.
Voilà. Là-dessus, tu payes 30% d'un impôt. Donc, il va me rester 1,4 ou 1,5.
Tu deviens un petit millionnaire.
J'ai 37.
T'as 37 ans. T'as moins de 40 ans et t'as plus d'un million. Pourquoi vous décidez de vendre? J'ai eu l'impression que vous avez eu le nez creux, hein, parce que j'ai suivi un petit peu après ce qui s'était passé avec Cityvox.
Non,
et je crois que
j'avais
bien fait de le vendre.
On a eu la chance, soyons honnêtes. Un de nos actionnaires, qui lui avait du nez et avait des bonnes intuitions, nous dit « En ce moment, je sens que le marché va se retourner. Il se peut qu'il y ait un crack ou quelque chose comme ça. Si vous avez des opportunités de vendre, faites-le. » À ce moment-là, Cityvox était en pleine bourre. Je n'ai pas raconté tout ce qui se passait entre les moments difficiles et les moments et la sortie, mais c'est un peu le grand vide émotionnel quand même, parce que tous nos concurrents s'effondrent petit à petit. On a réussi à racheter le principal concurrent pour une somme très faible, mais comme on s'était toujours respecté mutuellement, quand il a vu qu'il ne pouvait plus continuer, il nous a appelés et on a fait affaire très vite. Et en fait, le marché s'est consolidé. Et quand on a vendu Cityvox, ça faisait 3 millions de visiteurs uniques par mois. Donc ça veut dire que chaque mois, 3 millions d'internautes français venaient sur les sites. Et donc, la boîte est en forte croissance, elle est rentable, elle commence à être draguée, sollicitée par des grands groupes de médias. Nous, on n'est pas nécessairement pressés, mais cet actionnaire nous dit, si vous avez des opportunités, saisissez-la. Donc, on mandate un cabinet pour se vendre, en fait, puisqu'on a plusieurs acheteurs potentiels.
C'est comme des agents immobiliers, mais pour les boîtes.
C'est ça. Voilà. Qui, lui, va nous en trouver 3-4 de plus. Et là, c'est la meilleure situation, c'est le meilleur scénario, parce que quand il y a plusieurs acheteurs, d'abord, chacun se dit que s'il y en a d'autres, c'est que ça doit être très, très intéressant. Et ça permet de faire monter les prix ou de faire bouger certaines clauses. Et finalement, c'est Orange, France Télécom, qui emporte le morceau et qui nous achète à un prix, sur le moment, qui paraît très rationnel, mais qui est surréaliste, puisqu'ils nous achètent 6 fois le chiffre d'affaires, 60 fois les résultats. Enfin, c'est du... Avec quelques années de recul, c'est très excessif comme prix.
C'est toi qui négocies ? Non, enfin, tu prends part aux négociations ?
C'est essentiellement Bertrand et moi, pour les mêmes raisons, parce que Bertrand est président et que sur toute la partie chiffrée, c'était plutôt ma partie. Il faut savoir que, ça c'était dans l'histoire de Cityvox, au tout début de Cityvox, pendant 2-3 ans, on a géré la boîte sans aucun tableau, sans aucun chiffre. C'était complètement freestyle.
Au doigt mouillé.
Au bout de 2-3 ans, j'ai fait la guerre à mes collègues en disant « Non, mais c'est bien qu'on fasse des réunions tous les vendredis, mais on parle pendant 3 heures, on ne fait pas de compte-rendu, il n'y a aucun chiffre, on ne fixe pas d'objectif, il n'y a pas de reporting, c'est n'importe quoi. » Ils ont résisté pendant quelques mois. Finalement, j'ai eu gain de cause. Et heureusement qu'on a fait ça, parce qu'on ne peut pas piloter une boîte de cette taille sans avoir quand même quelques données factuelles. Et quand on a vendu, on était 50 salariés, donc ça se pilote quand même, hein.
Donc il y a plein de choix stratégiques à faire et on est sur des sommes qui sont éventuellement importantes avec des prises de risque qui peuvent mettre en danger la vie de la boîte, les salariés, etc.
Tout à fait, exactement.
C'est un stress ou pas? Ou c'est un plaisir? Ou il y a une excitation? Ou c'est assez fluide finalement?
Pour moi, il y a différentes formes de stress. C'était un stress qui était pour moi et je pense pour nous, pour mes collègues aussi, tout à fait tenable et ne nous empêchait pas de dormir. Quand j'étais consultant, on travaillait sur des enjeux colossaux, parce que des fois, on faisait des missions où le résultat de la mission, c'était implanter une usine ici, enfermer une ici. Il ne faut pas se planter dans son analyse, parce que derrière, il y a 150 emplois dans un cas, il y en a moins 150 dans l'autre. Et donc, moi, quand j'étais sur ces analyses-là et sur ces missions-là, j'avais la crainte de faire une erreur qui était colossale. Donc le stress, tu bosses le samedi après-midi parce qu'il faut finir une analyse, tu rates France-Angleterre, ça m'avait marqué, j'avais raté France-Angleterre au rugby. Et tu dis, mais t'es crevé parce que t'as déjà bossé 70 heures dans la semaine, mais si je me trompe dans mon fichier Excel et que j'arrive à la mauvaise conclusion, j'ai la vie de 80 personnes dans mes mains. Donc je ne peux pas me tromper. T'as l'interdiction de te tromper. Donc ce stress-là, moi, il me minait. Enfin, c'était colossal comme stress, en plus de la fatigue. Et tu as le stress aussi parce que tu as d'autres personnes qui sont au-dessus de toi, le manager, le partenaire, qui vont te dire quoi faire de ton emploi du temps, sur quoi tu dois mettre ton énergie et ton talent. Et ça, tu n'as pas la main sur le volant. Quand tu as ta boîte, tu fais peut-être des bêtises, et on en a fait plein, énormément, mais c'était les nôtres de bêtises. On les assumait.
Est-ce que c'est grisant de voir la boîte croître et son chiffre d'affaires augmenter et son succès se matérialiser dans ce qu'elle est capable de valoir?
Alors, c'est grisant, mais il y a plusieurs choses qui sont grisantes. Que la boîte réussisse, que tu arrives à te payer un salaire, que tu puisses dire autour de toi « je travaille chez Cityvox, ah oui, je connais », ça, c'est grisant. Le plus grisant pour moi, c'est quand les gens me disaient « ah oui, j'utilise Cityvox pour chercher un restaurant ou pour les horaires de ciné ».
Ce qui ne serait pas arrivé si tu avais fait une boîte moins populaire,
exactement,
moins B2C, comme on dit.
Exactement. Là, on est dans une boîte grand public qui touche, c'est un grand mot, mais 3 millions de personnes par
quand même 3 millions,
par
quoi.
Mois. Et c'est grisant d'avoir des gens qui utilisent le produit que tu as créé. Ça, oui. Ça, c'est vraiment grisant.
Plus que l'argent. Parce que quand même, à la fin, quand tu vends et qu'on te fait toutes ces offres, il y a quand même la question de la valeur. En tout cas, elle est matérialisée.
La valeur est matérialisée, c'est des sommes qui sont colossales. Moi, je me disais, dans mes rêves les plus fous, je n'imaginais pas avoir autant d'argent et avoir la possibilité d'acheter une maison d'une certaine taille, avec un jardin, la vue mer et tout. Enfin, à mon âge, je trouvais ça dingue. Donc oui, ça, c'est grisant.
Puis, ah oui, la baraque, l'accession à la propriété, la maison de tes rêves, ça a été un symbole, une matérialisation en tout cas de...
La richesse, Ma grand-mère me disait « il n'y a de richesse qu'immobilière ». Enfin, c'est le côté campagne, vraiment les pieds...
Oh, c'est très ancré en France en général.
Hein. Peut-être, en tout cas cette France-là.
On aime bien être propriétaire.
Ouais, cette France-là. Et elle m'avait dit, c'est aussi pour ça que j'avais acheté assez tôt, le premier achat est toujours le plus difficile. Après, ça sera plus facile parce que tu vas vendre ce que tu as pour acheter, etc.
Alors, je fais une petite aparté parce que c'est aussi une question qui commence à me tarauder. J'ai remarqué que quand les gens achètent, l'argent... qui mettent dans leur premier achat se rematérialise très rarement en argent liquide et va souvent dans un éventuellement deuxième achat. Mais en gros, c'est comme s'il était un peu emmuré,
oui,
figé dans de la pierre.
Complètement. Toi, il n'est pas liquide.
Oui, il n'est plus liquide.
Il est plus liquide. Mais en fait, c'est comme si tu avais réalisé un objectif, il y a un effet cliqué. C'est que tu es propriétaire de ton toit, donc ça, tu n'y touches plus. En fait, ça, c'est fait. Hop, tu passes à autre chose. Et ce que tu vas faire après, c'est d'autres projets. Mais tu ne vends pas. Moi, vendre ma résidence principale, quelle que soit la nature du projet que ça me permettrait de faire derrière, ce serait comme un retour en arrière, comme une...
Il y a vraiment l'idée d'une perte.
D'une perte, exactement.
C'est voilà. Fou, hein. Je crois que c'est pareil pour beaucoup de gens.
C'est vrai. Juste, je reviens sur un sujet, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais au moment où on vend Cityvox, donc on a une grosse somme d'argent, moi j'ai 37 ans, et là je suis à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais ? Avec beaucoup de sous.
C'est affreux, t'as réussi. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux ?
En fait, non. La seule chose qui est affreuse, c'est que tu ne peux pas t'abriter derrière des fausses excuses. C'est-à-dire que les choix que tu vas prendre, tu ne peux pas dire ben, « j'ai pas fait mon tour du monde parce que en fait, les enfants, le crédit, machin. » Non.
Tu n'as pas d'enfant en plus à ce moment-là.
Je n'ai pas d'enfant à ce moment-là. J'ai pas de crédit si j'en avais. Oui, j'ai un crédit, pardon. Mais je peux le rembourser et faire mon tour du monde sans problème.
Tu n'as pas de contraintes. Tu n'as plus de contraintes matérielles.
J'ai pas de fausses excuses pour dire « Ah, mais en fait, ce que j'aurais voulu faire, c'est architecte, et puis ce n'était pas possible, etc. »
Vraiment, je fais une pause sur ce truc très intéressant. À partir de ce moment-là, quand tu as plus d'un million cinq à toi, tu n'as plus aucune contrainte. Tous les choix, ça va être ta responsabilité. En gros, si tu es heureux ou pas...
C'est ta pomme.
Voilà.
Exactement. C'est exactement ça, et tu ne peux pas t'abriter derrière d'autres raisons.
L'argent t'a permis une liberté
totale.
Totale.
De ce point de vue-là, oui.
Et on n'est pas forcément préparé à cette liberté.
Pas du tout.
L'école ne te prépare pas, la vie ne te prépare pas.
On l'est d'autant moins qu'effectivement, on n'est pas habitué à se dire « j'ai un certain âge, je n'ai aucune contrainte familiale et j'ai la possibilité de prendre n'importe quelle direction. » J'aurais même pu, et ça voulait dire être un petit peu économe, me dire « j'arrête de bosser ».
Ouais. Voilà. Ou en tout cas, tu pouvais très facilement le faire pour un temps donné.
Exactement.
Personne ne t'en aurait voulu. Ton CV, bon, bah, c'était bon, là.
Oui, mais ça, c'était pas une option pour moi. Parce que ça doit se voir, mais ce qui me motive, c'est d'avoir des projets. Le projet au sens large, hein, c'est le projet, ça peut être... C'est pas nécessairement une création d'entreprise, quoi, c'est ça que je veux dire.
Tu crois pas que t'as quand même une forme de légèreté à partir du moment où...
Bien sûr. Non, mais c'est un luxe. Mais moi, mon rapport à l'argent fait que... Enfin, ce que j'ai pu gagner fait que je n'ai plus de stress sur l'argent. 95% des Français ont un stress sur l'argent, soit parce qu'ils ont du mal à boucler la fin du mois, soit parce qu'il faut qu'ils remboursent le crédit, soit parce qu'il faut qu'ils payent les études des enfants. J'en sais rien.
Est-ce que tu saurais dire à partir de combien d'argent t'as arrêté d'avoir ce stress ? Vraiment, ce luxe, est-ce qu'il y a un chiffre ou une bascule ou un moment où tu te dis, ça y est, j'ai la légèreté.
Alors, je peux répondre à cette question, mais il faut distinguer deux choses que les gens distinguent assez peu, alors que c'est, dans le rapport à l'argent, c'est extrêmement important. Il faut distinguer le patrimoine et les revenus. Moi, je me suis senti riche à partir du moment où j'étais propriétaire de ma belle résidence principale, qui était celle que je voulais, qui était... Voilà, à chaque fois que je rentrais chez moi, c'était à peu près tous les jours... Je me disais, ah, je suis trop bien, j'ai envie d'être là, j'ai envie de rester là, je peux aller nager en traversant la rue. Je trouvais que c'était un luxe inouï. Donc oui, à partir du moment où j'ai constitué ce patrimoine, je me suis dit, là, c'est bon, plus de stress. Les revenus, c'est pas pareil, parce que les revenus, c'est aléatoire. Moi, aujourd'hui, je suis moins payé que j'étais payé que quand j'étais consultant, alors que c'était il y a 25 ans. Donc, pour moi, les revenus, c'est quelque chose de très aléatoire.
Mais tu auras toujours ta belle maison sur la corniche.
Exactement.
Et si tu la vends, ce sera pour acheter... un autre bien autre immobilier.
Chose. Exactement.
L'argent ne redeviendra toujours pas liquide, mais ce sera en tout cas d'autres murs qui te feront un cocon qui, toi,
notre forme de stabilité.
Te plaît.
Tout ouais. À fait.
Ok.
Je vends Cityvox à un âge assez jeune. J'ai beaucoup d'argent et je peux tout faire. Je recrée une boîte.
Tu recrées une boîte de quoi ?
Toujours dans le web, je crée une boîte qui crée un guide pour choisir des hôtels, en fait, et comparer les prix, puisque sur le web, la distribution hôtelière fait que vous avez plusieurs distributeurs, donc ce qu'on appelle les hôtiers en anglais, Booking, Expedia, eBookers, etc. Et chacun peut avoir des prix différents, donc il y a une valeur ajoutée, en tout cas à l'époque, à comparer les prix.
Comme les comparateurs de billets d'avion,
exactement,
mais pour
c'est
les
un
hôtels.
Comparateur de prix d'hôtel. Et moi, j'y ajoute une valeur très différente qui est le contenu. C'est-à-dire qu'on a fait on a fabriqué des contenus très qualitatifs pour aider les gens à choisir un hôtel, parce que le prix n'est pas le seul critère. Donc, il y a beaucoup d'éditorialisation.
Donc là, on recommence, levée de fonds.
Non, là,
ou
enfin,
tu fais
oui,
ça avec tes sous.
Je finance un peu plus en fonds propres, c'est-à-dire avec mes sous. Je mets une grosse somme d'argent dans le projet et je vais convaincre des proches ou des business angels de mettre de l'argent.
Comment tu as fixé la somme que tu allais mettre dans cette boîte ? Parce que tu sais que tu peux le perdre éventuellement, cet argent.
Complètement. Et au moment où je le mets, je sais que je peux le perdre.
Donc comment tu te dis, bah, je peux me permettre ça, ça c'est quasiment...
À l'époque, je me disais, il ne faut pas mettre plus de 200 000 euros.
Comme ça, tu t'es dit 200 000 euros,
oui,
c'est ce que je peux perdre par rapport à... Il me restera assez pour être encore bien, c'est ça?
Oui, voilà. C'est vrai. C'est-à-dire que vu les sommes que j'ai évoquées, si tu perds 200 000 euros, ta vie, elle n'est pas foutue. Quoi.
200 000 euros,
200 000 euros, tu as quand même de quoi faire pas mal de choses, hein, et notamment aller jusqu'à la levée de fonds, ce que j'ai fait. Mais j'ai moi-même
participé... On peut lever des fonds si on ne met rien du tout.
Oui, mais c'est plus difficile.
Et d'ailleurs, c'est peut-être plus difficile que quand tu as commencé. C'est plus difficile quand
j'ai,
tu fais cette deuxième boîte.
J'ai beaucoup galéré pour lever des fonds.
Ouais, par rapport à quand tu crées Cityvox, où il y a la bulle Internet, où il y a ces offres mirobolantes et florissantes dans un marché fou.
C'est plus difficile. Et d'ailleurs, je lève des fonds en grande partie sur la base de mon CV. Ils se disent, parce que tu sais, dans la décision d'investissement d'un business angel, il y a le projet, mais il y a surtout la personne. Il a l'air de savoir gérer, donc il a déjà une réussite. Je peux lui faire confiance, quoi. Mais c'est beaucoup plus difficile de lever des fonds à ce moment-là. L'époque a changé, je suis sur un marché qui est très concurrentiel, avec des acteurs très très gros. Et surtout, emporté par mon élan, mais ça c'est toujours pareil. En fait, quand tu es entrepreneur, la réussite de ta boîte est ton objectif numéro un. Et du coup, s'il faut remettre des sous pour la réussite de la boîte, tu le fais assez vite. Et j'ai mis beaucoup plus que 200 000 euros.
Il y a le côté roulette. Enfin, le côté joueur de casino, quoi.
C'est ça, et parce que tu es convaincu, parce qu'il faut remettre de l'argent pour que des gens en mettent. Donc, si toi, t'en remets, ça prouve bien que tu y crois à fond, etc.
Là, t'es tout seul.
Oui. Là, je suis tout seul. La boîte a connu des hauts et des bas. Elle est toujours active. 10 ans après, elle a commencé à verser ses premiers dividendes. Donc, elle a une certaine forme de réussite. Mais elle n'a pas du tout la même forme de réussite que Cityvox, qui, elle, avait connu un vrai multiple.
Alors, Cityvox, qui quand même, j'ai lu dans la presse, s'est fait racheter 30 millions, bravo, mais qui derrière s'est fait revendre
deux fois
et à la fin pour 1 euro symbolique.
Tout à fait.
C'est vraiment bien fait de vendre.
On a bien fait de vendre, mais pas pour cette raison-là. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté Cityvox n'en ont pas fait ce qu'ils devaient en faire. Il y a même eu des luttes internes dans le groupe Orange qui ont fait qu'ils ont délaissé cet investissement. Donc ça, c'est indépendant de notre volonté, malheureusement, et ça a été vendu à un fonds qui lui-même l'a vendu à Yelp, qui ensuite a juste tout coupé pour faire des redirections vers Yelp.
Ils ont tué la boîte, en quelque sorte.
Ouais, c'est ça.
Ça fait bizarre quand même quand ta boîte, elle est finalement vendue à la fin du fin.
C'est assez frustrant.
Tu te dis, j'ai fait tout ça.
Il y avait des salariés, il y avait des gens qui croyaient dans ce truc, il y avait une marque, il y avait... Voilà.
Un euro.
Ouais. Il y a des boîtes qui sont vendues avec une valeur négative. Ça paraît difficile à comprendre quand tu n'as pas suivi un cours d'école de commerce, mais aujourd'hui, tu peux te séparer d'une boîte en disant à l'acheteur, non seulement je te la vends 1 euro, mais je te fais un chèque d'1 million pour que tu la reprennes.
Parce que dette, créance...
Parce que la boîte perd de l'argent, et parce qu'à un moment donné, tu dis, est-ce que je perds 1 million d'euros tout de suite, ou est-ce que je perds 500 000 euros tous les ans pendant encore 10 ans?
C'est quoi le pire qui puisse arriver à un entrepreneur en termes de pertes? Qu'est-ce qu'on risque vraiment quand on parle de ce risque?
Sincèrement, moi, je pense que le risque est assez mesuré. Tu risques de perdre la somme que tu as mise au départ. Tu as des risques probablement juridiques aussi, mais ça, c'est aussi...
Si tu as un contrôle fiscal ou si tu as... Non, je ne sais pas.
Mais c'est ton éthique à toi aussi. Moi, j'ai connu des entrepreneurs qui ont fait les cons, qui ont décidé de ne pas se payer un salaire, mais de créer une holding en Suisse pour se verser des prestations, enfin des trucs... C'était juste de l'escroquerie au fisc. Donc oui, ceux-là, peut-être qu'ils dorment un peu moins bien quand ils se font contrôler. Mais si tu fais les choses normalement et dans le cadre de la loi, nous, on a été contrôlés plusieurs fois. Moi, j'ai eu contrôle URSSAF, contrôle fiscal. En 20 ans, j'ai tout eu. Au pire du pire, il y a une erreur qui a été commise. Et elle est commise de bonne foi. D'ailleurs, elle n'est pas toujours dans le même sens. Des fois, tu as payé trop. Et il n'y a aucun impact. Quoi. Mais ce risque n'est pas très élevé.
Et si la boîte ne marche pas, tu peux la fermer?
Oui.
C'est ça, et t'as perdu tes sous.
tu as perdu tes sous, tu as... Certains pensent que tu as perdu une forme de crédibilité. Moi, je ne pense pas du tout. Enfin, je veux dire, il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas de conneries. Donc, créer sa boîte, par définition, c'est, tu es dans un scénario où ça peut échouer. Mais moi, je suis pas du tout mal à l'aise à l'idée que tu crées une boîte et bien ça n'a pas marché.
Est-ce qu'il y a une importance du secret sur l'argent dans une boîte ? Est-ce que ça joue un rôle ? Est-ce que parfois il faut cacher certains chiffres ? Est-ce que ça peut être intéressant de ne pas parler de certaines sommes ou de laisser un flou à des visées de négociation, de pas inquiéter, de faire croire que ça vaut plus ? Est-ce qu'il y a un jeu autour des sommes dans le déclaratif ?
Alors, il y a plusieurs natures de chiffres. Il y a la valeur de la boîte, il y a les salaires et il y a la trésorerie de la boîte. La valeur de la boîte, tu peux le partager, ça n'a aucune valeur, enfin, sans jeu de mots, parce que la valeur de la boîte, elle dépend d'une transaction qui est effectuée un jour si quelqu'un achète la boîte. Donc, en l'occurrence, Cityvox valait 30 millions en mars 2008. 6 mois plus tard, ça valait 10 fois moins. Voilà. Donc, qui est capable de dire que ça valait vraiment 30 ou vraiment 3 ? Personne. Ça dépend du moment, des acheteurs,
du marché,
de la bourse, etc. La trésorerie, c'est plus délicat. Parce qu'effectivement, si tu es en difficulté... Moi, j'ai toujours été un adepte de la transparence avec les salariés. Sur la durée, je me suis rendu compte qu'une transparence trop forte pouvait générer du stress. Et toi, tu penses que tu peux absorber ce stress parce que ton tempérament fait que tu peux l'absorber. Certains salariés ne peuvent pas l'absorber. Ils vont se dire oh, « voilà, mais on va dans le mur, j'ai plus avoir d'emploi. »
Il faut que je me casse, je vais prospecter ailleurs.
Ou même, il faut que je me casse, pourquoi pas. C'est pas très grave, chacun est libre de partir. Mais si tu dors plus, c'est plus grave. Voilà. Donc, et les salaires, dans un monde idéal, moi, je ne vois pas pourquoi on devrait ne pas assumer son salaire et les différences de salaire. Puisque pour moi, je n'accorde pas trop de valeur à l'argent et au niveau de salaire. En tout cas, ce n'est pas parce qu'un développeur est payé 50% de plus que notre job dans la boîte que la personne vaut plus. Mais ça crée énormément de jalousie, de discussion, d'incompréhension.
Ça, tu as pu le constater ?
Ah ouais. Ouais. Tiens, en fait, les salariés, quand ils ont accès au salaire de leurs collègues, ça génère beaucoup de questions. Des fois, c'est juste parce qu'ils parlent à la machine à café, toi, tu gagnes
pas rien, ouais.
Voilà. Et en fait, s'il y a un décalage dans la position qu'ils imaginaient avoir dans la boîte, et ils s'aperçoivent qu'il y a quelqu'un... Donc, ils imaginaient qu'il avait la même position, une position inférieure, mais qu'il gagne plus, il y a un sentiment d'injustice qui est énorme. Et pour le coup, le salaire, si tu es insatisfait de ce chiffre-là, quelle que soit la raison, bonne ou mauvaise, ça peut vite partir dans les tours. Voilà, c'est un sujet extrêmement sensible. Tu as des métiers qui valent plus, et puis une expérience qui peut être différente au même poste. Quelqu'un qui a 10 ans ou 3 ans, c'est quand même pas la même chose. Puis, faut pas se leurrer non plus. Et même poste, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres, qui sont plus compétents.
Donc, tu as recréé cette entreprise.
Oui.
Là, c'est sur cette entreprise que tu travailles encore aujourd'hui ?
Alors, je l'ai encore, mais j'y travaille très peu. J'y ai consacré plusieurs années de ma vie. Et puis, il y a eu pas mal de vicissitudes. Mais les 5 premières années ont été extraordinaires, avec une croissance très forte. On avait vraiment un business plan que j'aurais pu montrer dans tous les cours... de business plan, en plus on le respectait.
Dans même des musées du business plan.
Mais quasiment. Et par contre, on était sur un marché qui était très très dépendant de Google, puisque l'essentiel de notre trafic venait d'un très très bon référencement naturel. Et Google a modifié ses algorithmes, et on a une cinquantaine de sites web dans cette boîte. Et le plus gros d'entre eux a été quasi effacé de Google du jour au lendemain.
T'arrives au bureau un matin et paf
Oui, quasiment. Quasiment.
Pendant toutes ces années-là, tu te salaries ?
Là, je veux dire, les 2 premières années, non. Les 2 années suivantes, je crois que je touchais le SMIC, ce qui me permettait de cotiser pour la retraite. Et après, j'avais un salaire, mais pas très élevé. Je vais avoir 2500 euros net, un truc comme ça.
Ah oui, ça reste très raisonnable.
Oui, oui, oui.
Mais après, t'as les notes de frais.
À l'époque, c'est parce que j'ai jamais été très note de frais, moi.
Ah ouais.
Payer sa vie perso sur la boîte, j'y arrive pas. Parce que moi, j'ai convaincu des actionnaires de mettre de l'argent. Certains sont des amis. Je me vois pas, avec cet argent, me claquer des restos, quoi. J'y arrive pas. C'est pas possible.
La boîte commence à vaciller un peu puisque Google change son algorithme. Et là ?
Et là, je décide de milquer la boîte. Alors, désolé pour le terme, c'est un vrai terme d'école de commerce, ça. Donc, on a décidé de réduire les coûts au maximum. Donc, il n'y a plus de salariés dans la boîte. Tout est fait sous forme de prestataires externes, vraiment à l'os, quoi.
C'est toi qui vires les gens ?
Alors, en l'occurrence, on était assez peu nombreux et je n'ai pas eu besoin de les virer. Donc, je les ai plutôt accompagnés vers le départ. Mais j'ai licencié personne. Et la plupart, d'ailleurs, sont restés prestataires de la boîte. Voilà, j'ai une rédactrice qui voulait monter sa boîte d'organisation de mariage. Elle a monté sa boîte et elle continue d'être rédactrice pigiste pour moi et elle fait une facture par mois. Et voilà. Pareil pour un développeur. Voilà.
T'as fait un gros exercice de cost-killing, quoi.
Ouais. Qui a été très efficace puisque la boîte est devenue. Enfin voilà, on a 47% de rentabilité, un truc comme ça. Donc. En pourcentage, malheureusement pas en valeur absolue.
Mais ça veut dire que est-ce que tu aurais pu faire ça dès le départ ? Est-ce que finalement tu surpayais pas les gens ?
Non, parce que si tu milques, tu scies la branche sur laquelle tu es assise. C'est lent, mais tu la scies. C'est-à-dire que Internet est tellement concurrentiel, c'est tellement basé sur des technos, que si tu n'investis pas sur des technos pour mettre à jour un logiciel, pour suivre un concurrent qui a fait quelque chose de mieux, etc. La valeur de ta boîte diminue, l'audience diminue. C'est un processus long. Aujourd'hui, la boîte voit son chiffre d'affaires réduire chaque année, un petit peu. Mais il y en a toujours. Et pourtant, il n'y a plus de salariés. Donc oui, ça, c'est... il y a une inertie assez formidable quand même.
Et tu pourrais la vendre ?
Oui, je fais plus qu'y penser. Là, je suis en négociation pour la vendre.
Ah oui. Donc, Et là, c'est pareil, tu fais appel à un agent immobilier pour les boîtes ?
Pas du tout, parce que là, on n'est pas sur une boîte, toute petite. La probabilité de trouver un acheteur est assez faible et il faut que ce soit un acheteur qui a un certain profil. Là, il se trouve que c'est un acheteur qui a ce profil-là.
Qui est déjà dans ce business-là, j'imagine.
Qui est déjà dans ce business-là. C'est comme un jeu, tu imagines, risque avec une carte de l'Europe. Nous, on est sur la France, il est sur d'autres pays. Ça l'arrangerait d'être sur la France. Et voilà. Je ne sais pas si ça va aboutir.
C'est très long, ces négociations-là.
Oui, c'est très long. Et alors moi, je me suis trouvé... C'est la deuxième fois dans ma vie que je suis en position de vendre ma structure. J'ai été beaucoup plus souvent de l'autre côté, c'est-à-dire acheteur d'une entreprise. J'en ai acheté deux avec CDVox. J'en ai acheté trois avec la boîte pour laquelle je travaille aujourd'hui.
Quand tu achètes, tu essaies de faire baisser le prix de la boîte ? Enfin, il y a une négo, j'imagine, tu essaies de dire « Ah bah non, elle vaut pas tant, elle vaut moins cher. »
En fait, il y a... Je ne dirais pas que c'est un mythe parce que c'est un peu fort, mais il y a beaucoup de fantasmes sur le prix d'une boîte. En fait, quand tu achètes une boîte, le prix est un élément de l'équation, mais ce n'est pas ça qui fait la réussite et ce n'est pas ça qui mobilise ton énergie et ton temps quand tu rachètes une boîte. Quand tu rachètes une boîte, ce qui est complexe, c'est le premier jour après l'avoir rachetée. C'est qu'est-ce que tu vas faire après. Et en fait, moi, si tu me demandes d'acheter des boîtes et de trouver le bon point d'équilibre et de signer les contrats, moi, je peux faire ça toute l'année. Je peux t'en acheter 40 dans l'année, si tu veux. C'est moyennement difficile. Ce qui est difficile, c'est une fois que tu es propriétaire de la boîte, c'est l'intégrer dans ta boîte. Qu'est-ce que tu fais avec les gens que tu as achetés ? Qu'est-ce que tu fais avec la différence de culture ? Comment tu prends les décisions qui sont probablement difficiles, mais qui font que la boîte va être restructurée, remontée, elle va être rentable et reconnaître une croissance ?
Donc, se séparer de gens, réduire des coûts, faire ce genre de choses.
Changer de stratégie. Et ça, c'est beaucoup plus difficile parce que tu es sur de l'humain. En tout cas, la taille de boîte dans laquelle moi j'ai œuvré fait que c'est des boîtes, on va dire, de 5 à 30 personnes. Okay. 5 à 30 personnes, si tu perds quelques personnes clés de la boîte, elle ne vaut plus rien. Elle ne vaut plus rien. Donc, tu es obligé d'emporter les gens. Quand Engie achète une boîte de 5000 personnes en Italie, s'il y a 3 managers qui ont des états d'âme et qui s'en vont, la filiale en Italie, elle va continuer à vivre. Bon, il y aura des petits accros, mais voilà, ce n'est pas grave. Ça, c'est beaucoup plus facile de le gérer qu'un fichier Excel. Quand tu rachètes une petite boîte de 5 ou 30 personnes, tu es en permanence dans l'humain. Donc, en fait, ce qui va se passer les 12 premiers mois post-achat est critique. Et c'est là que tu vas faire une réussite ou un échec de la boîte que tu achètes, vraiment.
Et tu vas ou pas rentabiliser ton investissement ?
Oui. Oui. Et en l'occurrence, les deux des trois boîtes qu'on a rachetées dans ma nouvelle activité, c'était des boîtes qui avaient des difficultés financières. Enfin, ils avaient des points faibles qui étaient nos points forts. Donc, de ce point de vue-là, il fallait agir très vite et mettre en place nos points forts.
C'est une bonne situation, ça, patron ? Je veux dire, dans les dîners en ville...
Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt socialement valorisant. Et si tu dis que tu as créé... C'est pas que tu es patron, c'est que tu as créé ta boîte.
Entrepreneur, c'est mieux. Hein.
Entrepreneur, c'est plus chic, quand même.
Ouais.
Et donc oui, si tu dis que tu es entrepreneur, c'est...
ça va dans les
en général, on ne te renvoie pas en te disant oh « ça ne m'intéresse pas, je me casse ». Il y a des petites exceptions. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu. C'est que tu es un patron, donc tu es contre les salariés, et donc tes intérêts divergent de ceux des salariés. Je la fais très très courte, hein, mais ça m'est arrivé que deux fois. Donc tu es un salaud de patron, globalement. C'est vraiment l'exception, mais c'est arrivé, et c'est douloureux, parce que dans les deux fois où ça m'est arrivé, c'était des gens qui étaient intelligents, cultivés, avec lesquels je pouvais échanger pendant des heures sur plein de sujets. Et il y a un mur qui se crée tout de suite, parce que ah ouais, tu fais partie de ces gens-là, tu vois. Et ça, c'est hyper frustrant, parce que c'est, pour moi, c'est un jugement, et un jugement, bien sûr, absurde. C'est comme si je rencontrais un copain et qu'il me dit « Ouais, je suis au chômeur. » « Ah ouais, t'es un chômeur. T'es vraiment un branleur, en fait.
Ouais, »
En fait, tu vis au crochet de l'État, en fait. Mmh. Mais qu'est-ce que j'en sais, enfin, tu vois, j'ai chômage pour quelle raison? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Enfin, si t'as des sous et que tu vois les chômeurs comme ça, c'est absurde. Si tu es du côté... quelles que soient les raisons, par conviction, par éducation ou autre, tu es du côté du salarié, qu'il faut défendre les salariés, parler de la guille, etc., et que tu rencontres un patron dans ta vie, te dire que c'est un salaud de patron, pour moi, c'est absurde. C'est vraiment absurde. Et 99% des patrons, c'est pas Bernard Arnault. C'est des patrons de PME, c'est des gens qui...
Oui, d'ailleurs, tu as remarqué, on dit les grands patrons, on dit pas les grands entrepreneurs.
Ouais.
Hein,
ouais.
Il y a cette petite connotation où entrepreneur, effectivement, il y a quand même l'idée de l'aventure, du risque, de la création, qui colore le mot un peu différemment.
Qui est plus joli, oui.
Et, patron, on est vraiment sur Marx, etc.
Patron, c'est très lutte des classes.
C'est très lutte des classes. Et on dit les grands patrons. Et,
On ne dit pas les grands entrepreneurs.
On dit pas les
grands. Et pourtant, il y a des grands entrepreneurs. C'est des entrepreneurs qui ont une forme de réussite, qui se renouvellent, etc. Tu prends Elon Musk, rien à voir avec la personne qui est assez détestable, mais en tant qu'entrepreneur, il est très très fort parce qu'il a déjà fait plusieurs aventures.
Il arrive à lever des milliards, ouais.
Mais pas seulement. Il arrive à envoyer des fusées dans l'espace et qu'elles reviennent, tu vois. Donc
pas
toutes. Pas toutes, effectivement.
Il y a quelqu'un de très implanté dans les milieux des startups français, dans la tech, qu'on avait interviewé dans Thune, Jean-Baptiste Kempf, qui a participé à l'invention de VLC, qui est un mec très sympathique, qui avait beaucoup insisté sur le facteur chance.
Oui.
Dans l'entreprise.
Oui.
Toi, tu rejoins cette analyse ?
Totalement. En fait, quand tu es entrepreneur, tu te prends en permanence des vagues sur la figure et des aléas, des choses que tu n'avais pas prévues. Nous, dans le cas de Stivox, on est passé plusieurs fois au bord du précipice. Et à chaque fois, on a été sauvés, mais rattrapés par la patrouille, mais pour des raisons, avec le recul, qui étaient aussi de l'ordre de la chance. Je vais te donner un exemple. On est en 2003, peut-être. On est contacté par une banque pour leur fournir du contenu pour leur propre portail. Donc ils nous disent « Ah, Stivox, c'est bien, vous êtes sur des villes françaises, mais nous, on voudrait avoir notre propre contenu. Est-ce que vous pouvez fabriquer du contenu pour nous ?» Donc je fais une proposition commerciale. La banque revient vers moi et me dit « Oui, mais on voudrait du contenu exclusif. » Donc je dis « Mais ce n'est pas le même prix. C'est pas grave, on a les moyens, faites-nous une proposition. » Je leur fais une proposition, je multiplie le prix par 7. Par 7. D'accord ? En fait, j'ai fait une erreur de calcul. Je pensais que je voulais le multiplier par 2 ou 2,5.
T'as appuyé sur le mauvais bouton.
Ben, je ne sais plus ce que j'ai fait. Mon fichier était vraiment très, très gros, très, très complexe. Enfin, tellement qu'ils ne sont même pas perçus de l'erreur non plus, d'ailleurs. Mais je multiplie le prix par 7. Et bon, ça bloque un peu en face. Mais ça n'interrompt pas les négociations. Et puis le truc prend des mois. Parce que c'est une banque, donc il y a un processus décisionnaire qui est complexe. Et au bout de 6 mois... mon contact me dit « Bon, l'exclusivité, c'est un peu cher, est-ce que tu peux l'enlever ?» J'enlève l'exclusivité, mais j'enlève 20%. Je ne divise pas par 7. Hein. Parce que là, nous, on était tellement motivés pour avoir cet argent, il fallait qu'on l'ait, parce que sinon, on ne pouvait plus payer les gens. C'est passé crème. Donc, il faut une chance de maboule. Voilà. Une autre fois, c'était des subventions européennes qu'on a obtenues, parce qu'un de nos actionnaires s'assoit dans l'avion à côté d'un Grec, il raconte leur vie... Notre actionnaire dit « Ah, moi, j'investis dans une boîte qui fait un réseau de city guide, etc. » Le Grec qui dit « Ah, moi, j'ai une boîte en Grèce qui fait ça, mais nous, en Grèce, on est très fort parce qu'on a droit à beaucoup de subventions et il n'y a pas assez de projets. Donc, si on pouvait construire un consortium avec aussi des Espagnols et des Italiens, on pourrait aller chercher des subventions. » On fait le truc, on construit le consortium et on a récupéré sur 4 ans quelque chose comme 500 000 euros de subventions. Et ça aussi, ça a sauvé la boîte. Enfin, et à chaque fois, si on ne l'avait pas eu, la boîte coulait. Donc oui, il y a un facteur chance, il a raison, il y a un facteur chance, mais la chance fait partie de la vie, comme la malchance. Donc, on dit des gardiens de but qui les plus forts, qu'ils ont beaucoup de chance. Ben, ça se provoque aussi. Enfin, faut y croire, quoi. Plus tu tiens, parce que tu sais que la boîte est en difficulté financière et elle risque de fermer, plus tu tiens, plus tu risques de croiser un facteur chance. Si tu abandonnes aux premières difficultés, effectivement, non, ça ne marche pas.
Donc là, tu as un peu mis de côté, à distance, en tout cas, cette boîte où tu es en négociation pour la vendre. Tu as racheté plusieurs boîtes. Et puis, tu as un nouveau projet encore ?
Oui, un nouveau projet, alors complètement par hasard. Donc un jour, je fais une sortie en mer en partant du Vieux-Port de Marseille avec des copains. Et je passe devant un petit bâtiment, là, un chantier Borg à l'entrée de Marseille. Et je dis à mon pote, ah, j'adore cet endroit, c'est extraordinaire. J'aime bien ce qu'ils font. Ils rénovent des barquettes marseillaises, les fameux pointus en bois. Il me dit, ah, ben, je le connais, Denis, il est très sympa. Je sais qu'il veut passer la main. Est-ce que tu veux que je te le fasse rencontrer ? Bon, je te la fais courte, mais en gros, je le rencontre et ça a pris un peu plus d'un an, mais finalement, j'ai racheté l'entreprise, enfin, avec Denis qui reste sur le navire, mais on a t'as construit
un
projet.
Tu as racheté une part majoritaire dans l'entreprise, quoi.
Voilà, j'ai racheté une part très légèrement majoritaire et je me retrouve à diriger un chantier naval en bois. Donc, strictement rien à voir avec le web, avec l'e-commerce, avec la technologie.
Tu connais rien.
Exactement. Totalement incompétent sur la charpenterie marine elle-même. Je ne connais pas le marché. J'ai juste le premier réflexe qui est de dire, ben moi, en tant que Marseillais, voilà, j'ai telle approche avec un pointu, ça me plaît pas, ça a du charme, ça n'a pas de charme, ça coûte de l'argent, combien ? Oui, ça oui, mais je n'y connais rien.
J'ai une vraie question.
Ah, les autres étaient fausses.
Tout l'argent que tu as récupéré de Cityvox, qui est un peu ton plus gros coup, t'as tout claqué.
Bah,
il te reste quelle compensation de...
entre ma maison et ma deuxième boîte qui s'appelle Autrement, oui.
Donc là, t'as plus d'argent sur des comptes, non. T'as plus des centaines de milliers d'euros qui...
Non. Bah, j'avais, mais j'ai acheté le chantier Borg.
T'as la maison à toi et oui. T'as des parts dans des boîtes.
Exactement.
Voilà. Ça t'inquiète ?
Enfin, si j'étais inquiet avec ça, quand même, ce serait terrible. Enfin, j'ai vraiment une très jolie maison. Donc, si vraiment j'ai une grosse difficulté demain, je peux toujours la vendre.
Et comme on a dit, la maison, c'est un peu sacré. L'argent est un peu emmuré.
Enfin, pour moi, ce serait un aveu d'échec. En tout cas, la façon dont moi j'imagine l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va affronter des difficultés qui sont colossales, alors que si tu as une approche purement rationnelle, tu n'y vas pas. Il faut être un peu utopiste, remonter... Relancer le chantier Borg, c'est une méga utopie. C'est une méga utopie. Et en même temps, je me dis, quel argent j'y consacre ? Et en même temps, c'est hyper concret. Ce chantier, j'ai des clients, ils sont hyper difficiles. Il y en a qui ne payent pas, il y en a les deux tiers qui demandent à payer au black, il y en a qui te promettent des réponses, mais un mois après, ils ne te donnent pas de réponse, en attendant, tu as le bateau sur les bras. Au niveau de la gestion d'entreprise, c'est un projet difficile, vraiment.
Il y a des fois où tu dois être dur.
Oui.
Hyper souvent. Sympa comme ça.
Mais... Hyper souvent. Notamment avec cette nouvelle aventure. Je pense que tu ne peux pas être un bon entrepreneur si tu n'es pas capable de prendre des décisions difficiles. Il ne faut pas mettre trop d'affect. Ça ne veut pas dire qu'il faut être inhumain. Mais si, par exemple, dans le cas de Cityvox, on est passé de 80 personnes à 13. Bon, et sur les 80, il y en avait peut-être 60 qui étaient réellement salariés. Ça veut dire qu'on s'est séparé de 47 personnes. D'accord ? Donc c'est hyper dur comme décision. On a vu tous les salariés un par un, on a expliqué pourquoi on devait faire ça, on les a regardés droit dans les yeux, c'était horrible. Moi, dans les salariés, j'avais une copine à moi. C'est hyper dur. Mais au moment où tu le fais, pardon pour la comparaison, mais c'est comme quand tu quittes quelqu'un. Quand tu quittes quelqu'un qui est amoureux de toi, tu crées un malheur immense. Mais de toute façon, tu sais que l'histoire, tu ne peux pas la continuer. Là, si on n'avait pas licencié ces personnes-là, la boîte, elle partait au tapis. Donc au lieu d'être licencié et de garder 13 emplois, 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, il y avait 13 emplois de plus qui étaient perdus.
Il peut y avoir des moments où tu dois être dur aussi parce que là, tu parlais de clients qui ne voulaient pas payer, payer en retard, peut-être tordre les prix. Ouais. Tu te retrouves avec des gens en face.
Ça, c'est mon quotidien chez Borg.
Ça n'a pas l'air super sympa comme ça à vivre.
Non, c'est pas que j'aime bien, mais en fait... J'aime pas être pris pour un imbécile et les mécaniques de ce métier-là font qu'on a des... En tout cas, aujourd'hui, j'espère qu'on va changer ça dans les prochaines années, qu'on va pouvoir choisir nos clients. On a quelques clients de cette nature-là qui nous baladent, en fait. Voilà. Et ça, moi, j'aime pas être baladé, j'aime pas être pris pour un imbécile. Donc, développer de l'adversité ou des positions dures pour corriger ça, ça me fatigue un peu, mais ça ne me gêne pas du tout. Et je sais que je vais gagner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre option que je les mette dans un entonnoir dans lequel ils vont aller. Parce que de toute façon, s'ils n'y vont pas, il y a d'autres options que je connais qui sont à leur défaveur. Donc, c'est douloureux pour eux aussi, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Mais on y va. Ça prendra un mois, ça prendra six mois, ça prendra un an. Mais j'irai.
Allez, dernière question. C'est quoi le plus grand luxe? Le truc peut-être le plus bling ou en tout cas le plus luxueux que tu te sois offert?
Alors, je sais très bien ce que c'est. Et ça m'a d'ailleurs beaucoup appris sur l'argent et le rapport à l'argent. Quand on a vendu Cityvox, je suis parti avec ma compagne aux Maldives. On est en 2008, on n'a pas encore cette espèce de honte de prendre l'avion, elle est beaucoup moins forte. Et en fait, on décide d'aller aux Maldives parce que sa sœur fait de l'humanitaire au Sri Lanka. On fait un voyage au Sri Lanka, qui est notre vrai voyage, et les Maldives sont juste à côté. Et on se prend 3 ou 4 nuits aux Maldives. Et là, je choisis, je me dis, oh, j'ai vendu ma boîte, c'est la première et peut-être la dernière fois de ma vie. Je peux mettre une belle somme d'argent pour aller dans un hôtel. Et
à c'est l'époque, combien une belle somme d'argent?
Je me rappelle très bien parce que j'aurais jamais imaginé qu'on pouvait mettre cette somme pour passer 4 jours quelque part. Je crois que c'était 3 000 euros. On se retrouve sur une île avec un resort, mais sublime, extraordinaire. Pour donner un peu une idée des détails, on arrive, chaque voyageur est accueilli par une personne qui t'accompagne, qui t'explique et qui te donne un vélo pour circuler sur l'île. Et sur le vélo, je me rappellerai toujours, sur les pédales, c'est du métal un petit peu cranté, il y a des espèces de petites serviettes éponges qui font le tour de la pédale pour pas que tes pieds nus heurtent le crantage de la pédale, tu vois. Donc, tu vois, c'est ce niveau de détail de luxe. Et il y a une espèce de hutte, enfin de case, pour le restaurant était fait de plusieurs cases avec plusieurs types de cuisine.
Le restaurant?
Ouais. Il y a une case où là, on arrive et il y a 17 sortes de jambon, 23 sortes de fromage, sachant que nous, ça fait 3 semaines qu'on a mangé du dal. Le dal, c'est des lentilles et du riz. Donc, on atteint un niveau de luxe que je trouve hallucinant et que, objectivement, j'adore. C'est extraordinaire d'avoir accès à ça comme ça pendant 4 jours. Et je me rends compte assez vite, parce qu'il y a des dépliants dans la case où on était, cette espèce de case au bord de la mer, que toutes les cases n'ont pas la même taille. Il y a des cases mitoyennes, il y a des cases qui ne sont pas mitoyennes, il y a une double case, il y a la double case avec piscine. Il y a la double case en duplex avec piscine. Il y a 7 niveaux de luxe différents. Donc moi, j'avais l'impression d'avoir fait le truc le plus luxueux de ma life et que j'étais au sommet, quoi. Et je me rends compte qu'il y a 7 strates supplémentaires. À la fin, il y avait, sur le dépliant, il y avait des maisons qui devaient faire 180 mètres carrés en duplex avec 2 piscines, une d'eau douce, une d'eau de mer. Et là, je me dis, c'est pas possible. La mer, elle est à 10 mètres de toi. Mais tu as quand même une case avec une piscine d'eau douce, une piscine d'eau de mer. Et tu te rends compte que dans l'univers du luxe et des gens très argentés, en fait, le moteur, c'est d'en avoir toujours plus. Donc, celui qui vient avec la case standard et qui a beaucoup de sous, se dit, l'année prochaine, je vais prendre la double case ou la case avec piscine, comme ça, ce sera mieux. Mais en fait, il y en a encore 6 de strates au-dessus. Donc, le truc s'entretient comme ça. Et je me rappelle, il y avait 2 couples d'Italiens qui étaient avec 2 femmes top modèles, je pense. Ils étaient un peu plus âgés, eux. Et ils ont passé à peu près les mêmes temps que nous, c'est-à-dire 4 jours. Et tous les jours, les 4 faisaient la gueule. C'est-à-dire qu'ils ne se parlaient quasiment pas. Et à un moment, il y en a une des femmes qui s'est plainte de je ne sais quoi. Et je me suis dit, en fait, quand tu as accès à ça, si tu es habitué au luxe, si à un moment ton drap est froissé ou j'en sais rien, tu as un truc qui ne va pas, le café n'était pas assez chaud, tu rentres dans une frustration et tu vas engueuler des gens. Et pour moi, c'était le contraire du luxe, c'était ça. C'est-à-dire qu'on est dans une aberration où les gens qui ont les moyens d'accéder à ça, qui est juste hallucinant, sont quand même mécontents. Et le luxe, dans ma définition, dans ce cas-là, c'est que ça reste rare. C'est que nous, on a apprécié ça parce que c'était une fois dans notre vie et que peut-être notre case aussi, elle avait un truc qui était froissé ou le café n'était pas chaud. Mais on a juste trouvé ça magnifique. Voilà. Et je pense que quand tu vis ça tous les jours, si tu vas aux Maldives tous les ans, mais tu t'emmerdes à la fin. Enfin, je veux dire, oui, à part désirer la case plus grande, mais pourquoi faire ? pourquoi faire.
Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Pauline Lecomte sur une musique d'Emma Bitson. Si vous pensez que vous avez un rapport singulier à l'argent, n'hésitez surtout pas à nous en faire part via les réseaux sociaux. À très bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.